Carnet de région.
Gare,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce carnet de région, un journal d'actualité régionale proposé par plusieurs radios associatives du Languedoc-Roussillon. Au sommaire du carnet cette semaine, nous irons en Lozère du côté de Mende pour parler d'une initiative portée par la région, l'Ordi pour tous. Et nous y resterons en Lozère, mais du côté de Florac cette fois-ci, pour entendre le positionnement du parc national des Cévennes sur la fameuse problématique de l'arrivée du loup dans ce secteur. Ensuite, nous irons à Lodève dans l'Hérault, où le Conseil d'aménagement d'urbanisme et d'environnement, le CAUE, organisait un nouvel atelier des territoires pour réfléchir cette fois sur la problématique des centres anciens. Et enfin, un peu de culture, et pour cela, direction Alès dans le Gard, où les lauréats de l'édition 2012 du prix littéraire Le Cabri d'Or sont désormais connus.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
La semaine dernière, la région est venue apporter l'ordi pour tous dans les lycées lozériens. L'action voulue par le président Bourquin se poursuit donc cette année. Pour rappel, il s'agit d'offrir aux lycéens de seconde un ordinateur portable qui va le suivre pendant toute leur scolarité. Ludovic Terol, de 48 FM Mende, est allé à la rencontre des élèves du lycée Émile Peytavin de Mende, écouter César et Sophie, 15 ans, tous les deux en classe de seconde.
On va peut-être l'utiliser pour les cours, si on peut avoir la Wi-Fi, sinon on va l'utiliser comme extracteur solaire et tout ça.
C'est une bonne chose pour vous qu'on vous donne l'ordi, ça va vous aider dans vos études?
Je pense que oui, parce qu'avec les ordi, on pourra écrire un cours et ça nous évitera de porter des sacs et tout ça. C'est un peu Noël.
C'est un ordi pour étudier et apprendre des choses avec Internet et tout ça.
C'est indispensable pour vous maintenant d'avoir un ordi?
Je pense que oui, ça peut être utile, que les livres, ça devient un peu ennuyant. Donc bon, un ordi, c'est un bon moyen d'apprendre et d'avoir des infos un peu plus utiles, on va dire.
Vous en servez beaucoup des ordis de nos jours?
Ah oui, énormément, entre les devoirs à la maison et tout ça. Je pense que maintenant, ça sera encore plus simple. Pour les devoirs maison, comme je vous dis, c'est vraiment facile. Enfin, facile, on a des infos assez facilement et tout ça. Ça nous évite de chercher sur le dictionnaire et tout. Voilà.
Vous avez plus de facilité aujourd'hui à taper sur un ordi qu'à écrire avec un stylo?
Oui, largement, parce que avec les réseaux sociaux et tout ça, on apprend. Bon, même s'il y a quelques fautes, c'est assez facile d'apprendre. Il y a un correcteur, on peut avoir tout.
L'ordi pour tous, c'est le choix de l'égalité, d'après Sophie Pantel, conseillère régionale.
La région Languedoc-Roussillon a fait le choix de l'égalité pour fournir à tous les lycéens de la région un ordinateur. Alors, c'est un ordinateur qui est de très bonne qualité. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les éléments techniques. L'objectif, c'est de leur permettre à la fois d'être reliés à l'espace numérique du lycée, puisque la région, en parallèle, a équipé tous les lycées en réseau, etc. C'est vraiment d'en faire un outil de travail. Et on sait que demain, on risque d'avoir des livres numériques. Enfin, on va vers une économie numérique, y compris pour l'enseignement. Donc, il faut que ces élèves se disent que c'est une chance pour eux, quels que soient les revenus, quel que soit le niveau social, de pouvoir avoir cet outil de travail. Les professeurs sont en train de s'en saisir. Ils travaillent de plus en plus avec, maintenant que les espaces numériques sont entièrement réalisés sur les établissements. Et demain, je crois qu'on ne peut pas s'en passer de cet outil-là. On le voit bien dans notre vie privée. Chacun, on a des utilisations grâce à Internet et des accès à certains services. Mais demain, pour l'emploi, c'est aussi indispensable. Quel que soit le métier que vous faites, vous allez gérer et travailler à partir de cet outil. Donc voilà, de pouvoir être prêt et de s'en saisir, c'est tout le sens de cette action.
Et en région, ce sont 32 000 lycéens qui sont concernés par cette mesure pour un budget annuel de 15 millions d'euros. Le loup est arrivé dans les Cévennes. Ce n'est un secret pour personne vu que l'animal a déjà été photographié 3 fois depuis le début de l'année. Certains experts estiment que si rien n'est fait, les premières meutes de loups pourraient apparaître d'ici 15 ou 20 ans. Le parc national des Cévennes devait donc se prononcer à ce sujet et c'est désormais chose faite, comme nous l'explique Jean de Lescure, le président du conseil d'administration du parc national, au micro d'Anna Ménétrier de 48 FM Florac.
Aujourd'hui, le conseil d'administration avait une position à prendre sur la présence du grand prédateur. Elle a été très claire, à la quasi-unanimité, le conseil d'administration a fait le choix effectivement de défendre avant tout ses éleveurs, mais de défendre aussi la biodiversité parce qu'il est apparu dans le débat que le maintien de la biodiversité était étroitement lié au maintien des milieux ouverts. Et on sait très bien que nos milieux ouverts, eh bien, ce sont nos éleveurs qui assurent l'ouverture de ces milieux. Alors ça passe par une demande très claire de considérer que notre zone des Cévennes doit être une zone d'exclusion du grand prédateur. C'est pas compatible avec nos méthodes d'élevage actuelles. Alors pour ça, il faut qu'il y ait des tirs, donc on demande également que les tirs soient autorisés dans le cœur du parc national, puisque c'est interdit au niveau national dans les autres parcs, mais notre parc est chassé, donc il nous semble possible d'obtenir donc l'autorisation de faire des tirs dans le cœur du parc, mais surtout nous demandons une modification de la réglementation et de la loi, et nous sollicitons l'État, et nous sollicitons nos parlementaires en relais pour... introduire cette idée de modification de la loi.
Et pour Jacques Merlin aussi, directeur du parc, la décision a été difficile à prendre, mais dans ce contexte, elle était plus que nécessaire.
C'est un phénomène naturel, il y a le loup qui arrive, on le sait nous depuis 15 ans qu'il vient, personne ne voulait trop en parler, mais nous on le disait. Et là il est là et on a un système qui a du mal à encaisser le choc, et donc c'est difficile pour les éleveurs. Notre choix en tout cas, notre priorité elle est claire, c'est le pastoralisme d'abord, et ensuite d'autres éléments de la biodiversité. C'est-à-dire que la biodiversité sur laquelle on a des responsabilités ici, au niveau de l'Europe, de la France ou du mondial, c'est essentiellement lié à un élevage pastoral. Ben, le loup rend ça beaucoup plus compliqué. Il rajoute une contrainte très forte, et on a un élevage dont on a besoin, mais qui est très fragile. Parce que les marchés ne sont pas très propices aux moutons, parce que les aides publiques ne prennent pas en compte la gestion de troupeaux dans des régions pauvres et pentues, etc., comme chez nous. Donc, en poussée, à abandonner la main-d'œuvre, il n'y a plus de gardiennage, tout s'est organisé autrement. Et on a un réel souci. Les éleveurs, ils voudraient une réponse immédiate. Nous, on n'en a pas la capacité, on ne sait pas quelles sont les solutions. Donc, il faut au moins qu'on soit à leur côté et pour qu'ils puissent faire des tirs de défense s'il y a un loup qui s'approche de leur troupeau. Le loup, il est quand même très connu, ça. Il est en permanence sur presque la moitié de la surface de l'Europe, hein, avec de l'élevage, il ne faut quand même pas l'oublier. Alors, on ne sait pas exactement s'il va s'implanter en meute permanente. Il y a de fortes chances, mais ce n'est pas sûr. Ce qu'on voit actuellement, c'est des individus qui explorent. Peut-être que c'est un peu ce qu'a souhaité le conseil d'administration, essayer d'avoir un peu une action de dissuasion pour que le loup sente que c'est moins facile pour lui de se nourrir ici, tranquillement, et donc il cherche plutôt à s'implanter ailleurs, mais c'est même pas sûr d'y arriver.
Le conseil d'administration a donc voté à l'unanimité contre la présence de ce prédateur sur son territoire. Reste à savoir si le canidé respectera ce vote démocratique.
Carnet de région. L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de l'Hérault, CAUE, conseille et accompagne les collectivités locales en matière d'aménagement du territoire. Depuis 2 ans, il a également mis en place une série de rencontres baptisées « Ateliers du territoire » où les élus et les professionnels se retrouvent pour aborder des problématiques concrètes. À l'ODEV, il y a quelques jours, on abordait la revitalisation des centres anciens. On écoute Brigitte Mass, la directrice du CAUE, au micro d'Alain Mendez de Radio L'ODEV.
Oui, nous avons sélectionné effectivement plusieurs communes dans notre département qui est confronté à cette problématique-là, surtout effectivement dans des petites villes et des villes moyennes, mais que ce soit l'Odève, Ganges, Gignac, également un territoire beaucoup plus large avec le territoire de la communauté de communes Vallée de l'Hérault. Et là, effectivement, on assiste à un phénomène de paupérisation, de dégradation des centres-villages. Les activités s'échappent du centre-ville. Les logements ne sont plus trop adaptés aux mode de vie contemporain ou pratique actuelle, manque d'ensoleillement, manque d'espace, manque de confort, inadaptation aussi aux populations vieillissantes. Donc c'est un vrai problème, et ce qui est intéressant à voir depuis quelque temps, c'est que ces problématiques de logement inadapté ne sont plus exclusives d'une approche globale, et qu'au contraire, c'est une approche globale qui est absolument indispensable, qui prenne en compte des problématiques également de lutte contre l'étalement urbain, lutte contre la pénurie foncière, qui essaye de remettre de la vie dans les centres anciens. Ben en fait, si vous voulez, il y a déjà des dynamiques lancées hein, depuis pas mal d'années. Le CAE lui-même est confronté vraiment de façon très régulière à ces questions posées par les collectivités locales. Et donc là, en fait, l'objet de l'atelier, ben, c'est de nourrir les réflexions. Donc en fait, viennent des élus qui ont eux-mêmes ces préoccupations dans leur commune et ben, ils repartent avec effectivement la connaissance d'expérience dans d'autres collectivités et ils vont nourrir leurs propres réflexions à partir de ces exemples choisis, les professionnels aussi. Voilà, c'est un enrichissement pour tout le monde.
Carnet de région.
Hérault.
Aude.
Gard.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Pyrénées-Orientales.
Gard.
Lozère.
Lozère.
Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
C'est dans la salle des États de l'hôtel de ville d'Alès que fut connu il y a quelques jours le lauréat 2012 du Cabri d'Or, ce prix littéraire annuel d'une valeur de 5000 euros remis par l'Académie Cévenol. Parmi les 11 ouvrages retenus par le jury, présidé par l'éditrice Marion Mazoric des éditions Au Diable Vauvert, celui-ci a décerné son prix à Michel Boissard pour la première biographie consacrée à l'écrivain Jean-Pierre Chabrol, le rebelle. Historien de formation, Michel Boissard est chroniqueur littéraire à la Gazette de Nîmes et d'histoire au quotidien L'Humanité. Cet ouvrage, le premier de son auteur, n'est pas le fruit du hasard. Michel Boissard sait de quoi et de qui il parle. Il a eu l'occasion par le passé de rencontrer Jean-Pierre Chabrol à plusieurs occasions.
J'ai rencontré Jean-Pierre Chabrol et je l'ai interviewé parce que je faisais à l'époque de la critique littéraire pour le supplément départemental de L'Humanité dimanche. Et j'ai eu l'occasion de le rencontrer à la mairie de Chambourigo, où il signait le canon Fraternité au printemps 1971. Donc j'ai eu l'occasion de le rencontrer à ce moment-là. Je l'ai rencontré par ailleurs en 1979, où j'ai animé un débat entre lui et Jean Carrière à la fête de la Marseillaise à Lézan. Et puis j'ai eu l'occasion de le rencontrer à plusieurs autres reprises à l'issue de ses spectacles, notamment La Folie des Miens, soit au Cratère, soit au Théâtre de Nîmes. Donc je le connaissais, mais je le connaissais amicalement comme ça parce qu'il était très direct, mais je n'ai pas consulté sa famille pour rédiger sa biographie, ni sa dernière épouse, sa veuve, qui vit toujours au Gravas mais qui est souvent absente, et ni ses enfants. Par contre, je leur ai envoyé mon livre à Olivier Chabrol, son fils aîné, et à Elsa, qui est également romancière et réalisatrice de télévision. Ils m'ont tous les deux répondu de lettres extrêmement gentilles, très heureux, en me donnant un certain nombre de détails d'ailleurs que j'ignorais de la vie privée ou personnelle de Jean-Pierre Chabrol. J'ai essayé de relire l'œuvre.
Vous n'avez pas voulu plonger dans la vie privée de l'écrivain, non. Mais vous êtes passé par l'œuvre essentiellement.
Il y a un petit peu plus de 2 ans, j'ai essayé de relire la totalité de l'œuvre de Chabrol. Parce que j'en avais un petit peu assez qu'on dise Chabrol, romancier Cévenol. Alors, c'est pas que ce soit indigne d'être un romancier et d'être Cévenol. Au contraire, à mon avis, il y a André Chanson, il y a Jean Carrière. Mais leur œuvre de ces trois-là ne se limite pas à ce type d'inspiration étroitement géographique. Et en relisant l'œuvre de Chabrol, je me suis aperçu que lui-même était gêné par cet aspect réducteur de romancier Cévenol. Et il dit, après tout, j'ai écrit un certain nombre de mes romans ailleurs que dans les Cévennes. J'ai écrit par exemple le canon Fraternité qui concerne la commune de Paris au quartier de Belleville. Et lorsque on relit la totalité de l'œuvre de Chabrol, on s'aperçoit que c'est l'œuvre d'un grand écrivain français qui a fondé son écriture sur l'esprit de rébellion, l'esprit de refus, l'esprit d'insoumission. C'est en ce sens, à mon avis, qu'il est à la fois Cévenol et protestant.
Donc Michel Boissard, c'est une œuvre toujours actuelle ?
Ah, c'est une œuvre, à mon avis, tout à fait actuelle, parce qu'elle nous parle effectivement des luttes qui sont nécessaires pour notre environnement, par exemple. Quand on lit le Crève-Cévennes qu'il publie dans les années 70, Chabrol, à l'époque, est terriblement en colère contre le parc national des Cévennes. Il n'en veut pas. Et puis, à la fin de sa vie, il dira, ben, somme toute, c'était pas si mal que ça. Ça veut dire qu'il n'était pas complètement idiot et qu'il a su évoluer. Et effectivement, je crois qu'il a valorisé les Cévennes, mais en même temps, il a valorisé un certain nombre de valeurs. L'opiniâtreté, une certaine dureté. Les personnages de Chabrol sont des personnages qui sont souvent durs. Je pense à La Banquise, qui est son dernier roman réussi, à mon avis, qui est le personnage d'une femme résistante, d'une femme descendue de la haute Cévennes, qui vient vers Pondracel, ça s'appelle Bouscassel dans le roman, et qui effectivement se rebelle pendant la Deuxième Guerre mondiale, et qui finira d'ailleurs assez tragiquement. Donc je pense qu'il y a cet esprit de rébellion, cet esprit d'insoumission, cet esprit de délibération entre soi et sa conscience, qui est quand même quelque chose de profondément protestant. C'est-à-dire qu'on n'admet pas d'intermédiaire entre Dieu et soi. Et l'un des plus beaux romans de Chabrol, c'est quand même Les Fous de Dieu, qui est l'exaltation de cette geste très cruelle, très violente, qu'est la guerre des Camisards de 1702 à 1704.
Alors, petit clin d'œil de l'histoire, vous êtes aujourd'hui lauréat du Cabri d'Or. Jean-Pierre Chabrol l'avait été avant vous, 25 ans plus tôt.
C'est ça, il l'a été pour Contes à mi-voix, qui est un ouvrage qui est paru chez Robert Laffont en 1985, et dans lequel il y a plusieurs textes d'ailleurs autobiographiques, notamment un dont je recommande la lecture si on arrive à trouver les Contes à mi-voix, ça s'appelle La montée au maquis. Et il raconte comment il est devenu maquisard. Et c'est un élément fondateur, ce refus de la défaite qui le conduit à devenir maquisard. Il raconte effectivement qu'il voulait devenir maquisard gaulliste. Il prend des contacts avec des gens de l'armée secrète de la Hesse. Et puis, il se trompe. Au lieu de tourner à droite, il tourne à gauche, mais géographiquement parlant, et il tombe sur un maquis FTP, au Bougès. Un maquis FTP composé d'immigrés espagnols, algériens, tchèques, polonais et de communistes. Et c'est comme ça qu'il devient communiste de circonstance, sans jamais avoir eu sa carte. Puis il la prendra à la Libération. Comment il est devenu maquisard ? C'est la source même de son talent d'écrivain.
Jean-Pierre Chabrol, Le Rebelle, est publié aux éditions Alcide et peut facilement se trouver dans toutes les bonnes librairies de la région. C'était un sujet proposé par Yves Defago de Radio Grille Ouverte.
Carnet de région.
Gare,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Roussillon.
C'est la fin du carnet de région pour cette semaine et pour ce mois-ci, vous l'aurez entendu, c'était Radio Escapade qui était chargée de sa mise en onde. Dès la semaine prochaine, nous passons le relais à Radio Pays d'Hérault qui s'en occupera. Merci à vous d'avoir suivi ce carnet de région, votre journal d'actualité régionale proposé par plusieurs radios associatives du Languedoc-Roussillon.